Nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Barthas.
En direct.
Sur le 107FM.
J'ai retrouvé mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur Radio Barthas, bienvenue sur le 107. Nous sommes, c'est incroyable, le mercredi 27 octobre, il est 8h30. Au programme de cette matinale, nous sommes en studio avec Pierre-Yves Bulteau. Bonjour.
Bonjour Ben, bonjour à toutes et à tous.
Pierre-Yves, tu es journaliste. Tu es journaliste correspondant pour Mediapart et Le Monde. Tu as travaillé aussi avec France Inter avec Daniel Mermet. Et tu es ici parce que tu accompagnes depuis deux jours WeJeune dans un stage cette semaine d'éducation aux médias qu'on propose ici à Radio Barthas, voilà, depuis lundi. Mais tu es aussi l'auteur du livre « En finir avec les idées fausses propagées par l'extrême droite ». C'est publié aux éditions L'Atelier. On va parler avec toi de tout ça dans un instant. Ça va être super. En deuxième partie d'émission, notre cher Marc de l'émission « Comment vous vous appelez ?» est parti à la rencontre de Monique, qui est directrice de l'Office du tourisme de Florac. Ce sont les 20 ans de la soupe ce week-end. On l'attend avec impatience. Alors oui, ils annoncent de la flotte, mais ça ne nous empêchera pas de faire la fête dans la joie et la bonne humeur. Il y aura de la musique comme d'hab, mais on commence par l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dévoté là...
Ce n'est que l'édito des Barthas. Je vais mettre la bonne page, voilà, c'est mieux avec la bonne page devant moi. Le chiffre du jour, 100% des Français sont contre les sondages. Autre chiffre, 90% des médias s'en foutent et en font à tour de bras. Autre chiffre, 100% des politiques adorent les sondages quand ils les encensent. Et dernier chiffre, 100% des politiques disent qu'il ne faut pas croire les sondages quand ils les défoncent. Le quotidien Ouest France, un journal qui vient de chez toi, Pierre-Yves, annonce qu'il couvrira la campagne présidentielle sans sondage. Clap. Clap, 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 clap. Une présidentielle sans sondage, avec simplement des candidats, des programmes et des débats. Une campagne où les reportages, décryptages et analyses prendraient le pas sur les commentaires de la course de petits chevaux, dans laquelle les intentions de vote font office de boussole à la fiabilité contestable et à l'effet performatif évident. Oh, je rêve d'une campagne présidentielle comme ça. 45% des Français veulent que le pouvoir d'achat soit au cœur de la campagne. 52% c'est l'insécurité. 33% c'est l'emploi. Attention, tous les chiffres que je viens de donner ne sortent que de ma tête et sont absolument inventés. La question qui se pose, c'est d'où vient cette frénésie, cet état d'exaltation pour les sondages? En ce moment, l'équipe de Sarkozy est devant la justice pour ces fameux sondages commandés aux frais des Français lorsque celui-ci était à l'Élysée. Les médias les commandent en masse, les politiques les regardent attentivement, quand bien même s'ils ne sont pas à leur avantage, la parade est toute trouvée, il ne faut pas croire ce qu'ils disent. Pourtant, si on réfléchit, les sondages ne sont représentatifs que des gens qui acceptent d'y répondre. Évidemment, la phrase qui va suivre peut facilement être remise en question. Je ne connais pas ni la totalité des Français, mais honnêtement, qui n'a jamais connu dans son entourage ou même soi-même ces coups de fil intempestifs à 18h, ça me gave, ou bien je ne réponds pas aux appels masqués ou privés. Je ne suis d'ailleurs pas sûr qu'une intention déclarée soit synonyme d'un vote. Au vu de l'abstention aux dernières élections, comment être sûr que les personnes qui répondent aux instituts de sondage iront voter? Et qui plus est pour le candidat déclaré? La claque qu'a pris l'extrême droite aux élections alors qu'elle était donnée en tête a de quoi faire réfléchir. Ou pas? Bon, réponse en avril. Pierre-Yves, les sondages.
Oui, bah, les sondages, tu l'as très bien dit, les sondages, ils sont au tribunal aujourd'hui, hein, dans l'affaire Sarkozy. Les sondages, évidemment, c'est une histoire de système et d'argent, puisqu'on parle de à peu près un peu plus de 4 millions d'euros de mémoire, dont Patrick Buisson, qui est très intéressant, parce que Buisson, à la fois... Il se prend 2 millions d'euros dans les poches grâce au sondage, et puis c'est le conseiller occulte de Sarkozy sur les questions que tu as nommées sécuritaires, etc. On voit bien que tout ça se mord la queue, et dans ton rêve des thèmes que tu as posés, on voit bien qu'en fait les sondages servent à poser tout sauf les thèmes qui, je pense, alors soit intéressent, je sais pas si c'est le terme, mais qui concernent, je pense, qui concernent les Français.
Toi, en tant que journaliste, tu vas la couvrir, la campagne présidentielle?
Ouais.
Okay. Eh ben, bon courage.
Mais je tiens, tu m'apprends que Ouest France, le quotidien régional de mon coin, a pris cette décision que je trouve intéressante.
Est-ce qu'elle va pouvoir la tenir, ça?
C'est autre chose, mais en tout cas, l'intention est à suivre.
On continue de discuter ensemble dans un instant. On écoute d'abord Lucia de Trio Zephyr.
Cielo, caballalo,
douceur en occitan. Lucia, d'ailleurs, on dit Trio Zéphyr, c'est joli.
Ah, c'est très joli.
Ça calme tout le monde, les politiques devraient l'écouter.
Ouais, ouais, ouais. ça inspire et ça devrait écarter les politiques de la frénésie et se recentrer sur les priorités.
C'est clair, vous l'entendez, on est avec Pierre-Yves qui est journaliste. On encadre depuis lundi autour d'un stage à l'éducation aux médias ici à Barthas. Eh, dis donc, ça se passe plutôt pas mal.
Ah, c'est top. Vraiment, je suis arrivé lundi. Ils sont 8, ils ont entre 13 et 15 ans. La première info, c'est qu'ils n'étaient pas connectés. Je me suis dit, tiens, des ados non connectés, est-ce que c'est qu'en Lozère, il n'y a pas de 4G? Alors, j'ai vérifié, mais ici, il y a la 4G en Lozère. Non, des jeunes hyper concernés, à tel point que j'ai monté le curseur, parce que je me suis dit, vu qu'ils en demandent, et on a parlé, alors pas des sondages, mais on a déconstruit l'univers médiatique, on a déconstruit ce qu'on appelle la concentration des médias, on a déconstruit par exemple pourquoi le petit monsieur Z aujourd'hui sature tant
les ondes. Merci de ne pas avoir sali le micro.
Ah oui, oui, je sais bien que Barthas, vous avez une hygiène irréprochable, alors je l'appellerai le petit monsieur Z. Et merci en fait, beaucoup. On a, voilà, ça fait deux jours et demi qu'on parle de tout ça. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que dès ce midi, ils vont partir jouer sur le terrain. C'est aussi clair. L'objectif.
D'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui se disent, non mais c'est vaste, en plus on aurait pu faire toute l'interview là-dessus, mais pourquoi éduquer les jeunes aux médias, après tout, sont très bien dans ce monde où l'accès à l'information est facile. Bon, ouais, c'est ironique. Ouais,
c'est ironique. C'est très important parce que je peux faire mon travail comme je le fais depuis 20 ans, m'adresser aux mêmes et me dire finalement tout va bien parce que je pense des choses, les gens que j'interviewe les pensent à peu près et puis ceux qui me lisent les pensent aussi. Sauf que c'est pas ça le journalisme. Le journalisme, c'est déjà mettre en lumière les invisibles, les premiers de corvée, les non-essentiels, comme on a dit il y a un an et demi. Et c'est surtout déjà faire émerger ces voix, et puis que ces voix, elles arrivent là où elles ne sont pas attendues, et notamment chez des jeunes. Et pour que ces voix arrivent là, il faut que ces jeunes comprennent le chemin de l'info, et qu'ils comprennent aussi où est-ce qu'ils peuvent s'informer au-delà de tout ce qu'on leur propose, je dirais même au-delà de ce qu'on leur impose. Et donc c'est pour ça que c'est important pour moi l'éducation. Aux médias.
Tu l'as dit, 20 ans d'expérience, 20 ans de journalisme, c'est quoi ton parcours?
Alors vite fait, mon parcours, c'est Radio Barthas, mais à 1000 km d'ici, puisque c'est une petite radio qui s'appelle Graffiti, j'ai 17 ans. Comme tout le monde, j'écoute la radio, puis je suis curieux, je me dis je vais aller derrière, et en fait j'ai un coup de foudre. Alors j'ai un coup de foudre avec le son, pas forcément avec le journalisme, au début je sais même pas ce que c'est quand j'ai 17 ans. Et puis rapidement, je comprends que je serai pas technicien, je comprends que je serai pas animateur. Beau métier, mais moi j'ai la bougeotte, donc j'aime pas être assis. et je comprends que finalement ce sera reporter qui me colle. Et puis rapidement, des études de sociologie, des études de journalisme. Je reviens dans la PQR, donc Presse Quotidienne Régionale, notre chère Ouest France, puisque nous c'est pas le Midi Libre, c'est Ouest France. Et puis rapidement, je sens que je vais être à l'étroit, je dis pas ça de manière orgueilleuse, mais je sens que je vais être à l'étroit avec tout ce qu'on m'impose, tout ce que l'agenda impose et tout ce qu'on ne peut pas traiter. Et je crée un canard qui s'appelle le Sans Culotte 85, un vilain petit canard qui fête ses 17 ans aujourd'hui. Et on fait du journalisme comme on a envie de le faire. Et puis il se trouve que un jour, le téléphone sonne et au bout du fil, c'est « Salut, c'est Daniel ».
Ce qui est marrant que tu dises le téléphone sonne, ce qui n'est pas du tout l'émission.
Ce qui n'est pas du tout l'émission par laquelle je vais bosser, mais en tous les cas, le téléphone sonne et derrière, il y a Daniel Mermet et qui est très à l'affût de ces petits canards parce qu'il sent que derrière, il y a des personnes avec qui il pourrait bosser et l'aventure là-bas, si j'y suis, commence pour moi jusqu'en 2014 puisqu'on se fait virer gentiment de la grille de France Inter et donc du coup, avec les réseaux, ce bouquin dont on parlera qui était en cours d'écriture et publié en plein dans ces moments-là, je me retrouve à bosser pour Mediapart à Paris. Et puis en 2018, Paris, c'est bien joli, mais la mer me manque et mon territoire me manque. Et je deviens correspondant régional pour Mediapart et Le Monde.
Oui, et Mermet, pour revenir à lui, c'est une certaine conception du journalisme.
Ouais, ouais. Alors Daniel, bon, au-delà de la voix, qui est pourtant quelque chose d'intéressant. Daniel, alors, c'est plus près des routiers que des rentiers, c'est plus près des jetables que des notables. Et ça, c'est pas une blague. C'est-à-dire que quand on bosse avec Daniel, la conférence de rédaction est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on se prend vraiment la tête, mais pas pour soi. Souvent, les conférences de rédaction, Le journaliste défend un sujet parce qu'il veut briller. Il veut que ce soit son sujet. Chez Daniel, on se prend la tête parce qu'on veut que les personnes qu'on a identifiées brillent. Et donc, on se bat. Mais réellement, on se bat pour dire là, cette lutte sociale, il faut en parler, Daniel. Mmh. Allez, je vais le dire, je peux dévoiler ce secret, mais par exemple, Notre-Dame-des-Landes, qui est un sujet alors que je connais bien parce que c'est mon coin, mais j'étais à Paris à l'époque. Daniel, et je vais vous dire le petit secret, Daniel, au début, Notre-Dame-des-Landes, ça l'intéressait pas des masses, parce que Daniel dit, bah moi, les aéroports, ça me va. Daniel, il a passé sa vie à prendre l'avion pour parler du monde. Et donc, avec Antoine Chao, un des autres noms de la Bastille-Issue, on se dit, putain, il faut quand même qu'on parle de Notre-Dame-des-Landes et des zadistes, et on trouve le biais en disant, tu sais Daniel, c'est pas qu'un aéroport, c'est Vinci, c'est le privé qui va bétonner, c'est le privé qui va encore se faire des couilles en or sur ces sujets, et dès qu'on prononce Vinci, égale multinational, égale profit, Daniel il dit ok, banco, on y va. Voilà, ça c'est par exemple un exemple.
et pourtant, pas toujours facile d'être gauchiste dans une radio qui se dit de gauche.
Ouais, alors encore un petit secret, mais on nous appelait Gaza, c'est-à-dire que le bureau, donc nous on était, alors pour ceux qui connaissent un peu Paris, on n'était pas à l'époque dans la Maison Ronde parce qu'elle était tellement amiantée qu'il la refaisait étage par étage, on était de l'autre côté de la ligne de RERC, on était au Mangin Palace pour ceux qui connaissent Colin et Mauduit, donc bureau 511, c'était Gaza parce qu'en fait, et d'ailleurs on comprenait pas forcément parce que tu dis gauchiste de gauche, je sais même pas en fait, on faisait du journalisme, c'est-à-dire on réfléchissait à la société, on se disait tiens c'est là que ça bouge, c'est là qu'il faut être et c'est là qu'on allait en réalité, et je crois que si un de nos torts c'est qu'on sortait de Mangin ou de la Maison Ronde, beaucoup de journalistes à Paris, le grand reportage commence au périphérique pour eux, je veux dire c'est assez extraordinaire, donc nous on sortait, après évidemment on menait un journalisme je sais pas comment on peut l'appeler, engagé, oui je dirais pas militant parce qu'on n'était pas des militants, on était des journalistes, mais engagés sur sur des causes qui nous semblaient intéressantes à défendre.
On parle de, ici, oui c'est vrai, quand je dis de gauchiste de gauche, c'était un peu la blague. Bon après, il y a toujours un peu une ligne éditoriale, on trouvera pas la même chose, le Figaro ou Libération évidemment, mais d'ailleurs on pourra en parler pendant des heures, on va se focaliser mais sur ce qu'on appelle les médias d'opinion. Est-ce que t'aurais cru possible que ça arrive en France, une télé comme Fox News qui est aux États-Unis et là c'est CNews.
Bah écoute, ça tombe bien parce que hier c'est ce qu'on a tenté de déconstruire avec les enfants de l'atelier, c'est-à-dire que pour qu'il y ait CNews aujourd'hui, il faut qu'il y ait un vrai cheminement. Ça peut pas arriver par hasard. Et généralement, ça arrive au bon moment. Derrière ça, il y a un mec qui s'appelle Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, au début, bah tiens, c'est encore un Breton. Ça, c'est encore par chez moi. Ça. Il y a un mec qui s'appelle Bolloré. Il vend des clopes OCB, oxyde carton blindé, les petits filtres, les feuilles à cigarettes. Après, il part en Afrique. Il part jouer sur la terre africaine avec les relations France-Afrique qu'on connaît par cœur ici. Et puis, c'est-à-dire que quand t'es patron de presse, quand tu veux aussi protéger tes intérêts et quand tu veux que plus largement tu sois pas embêté, pour le dire poliment, il faut un moment que t'achètes des danseuses, c'est-à-dire que t'achètes des médias. Et Bolloré, sa danseuse, ça va être le groupe Canal. Quand Vivendi et Messier sont au fond du trou, il arrive, il fait son OPA, il rachète Canal, etc. Et puis progressivement, y a trois missions normalement quand t'as un média de service public ou de service privé que tu passes avec le CSA, c'est informer, cultiver et divertir. Bon ben rapidement dans Canal+, l'informé disparaît puisque les rares grilles comme les guignols sont peu à peu épurées, etc. Le cultiver, ce qui était un peu la culture pop de Coné Garcia disparaît et il reste divertir, le foot, etc., le cinéma. Et puis quand même informer, c'est important parce que informer, c'est garder, protéger ses intérêts. Et donc dans le groupe Canal, il y a iTélé. iTélé, il veut la pourrir parce qu'iTélé fait pas si mal que ça son boulot. Donc il introduit le loup dans la bergerie. Jean-Marc Morandini, si vous vous souvenez de cette histoire, ce mec de la trash télé qui en plus a quelques problèmes de mœurs, on va dire ça comme ça, avec des jeunes garçons.
C'est le cas de le dire.
Bolloré introduit Morandini dans la rédac d'iTélé. La société des journalistes disent ah non, ça va pas être jouable. Il y a une grève qui dure à peu près 45 jours. Évidemment, Bolloré tient. Hein. L'objectif, c'est que la grève fasse qu'iTélé finalement se dépeuple de ses journalistes, de ses figures, etc. iTélé meurt, hop, Reborn CNews. Et puis, bah, quand les mecs sont partis des télés et que t'as une nouvelle marque, on en arrive à ta question sur Fox News, eh bah, Bolloré, il fait rentrer des personnes qui ont tout intérêt à rentrer pour un certain discours et pour surtout protéger les intérêts de Monsieur Bolloré. Parmi les personnes qui rentrent, le petit Monsieur Z. Mmh. Et ce petit Monsieur Z, qui était déjà connu par Ruquier sur France Télé, etc. Il a son show quotidien, et le petit Monsieur Z, aujourd'hui, non seulement il a son show, mais il fait son show, quoi. Et ça, tout ça, je vais pas te dire que Bolloré avait dit objectif 2022. Ceci dit, je pense que quand même, ces mecs-là, ils ont coché des cases, quoi.
Triste histoire. Est-ce que tu trouves que c'est facile d'être journaliste aujourd'hui en France?
Bah, je sais pas. On n'est pas comme des pays, la Russie, etc., où on peut finir avec une balle dans la tête quand on tape son digicode en bas de chez soi, ça c'est clair. Oui, c'est compliqué parce que, alors, bon, une fois que tu as compris la concentration des médias, tu te dis aussi qu'à ton niveau, tu peux faire ton boulot quand même. Ce qui est compliqué, c'est les paroles. C'est-à-dire que ce métier, c'est recueillir la parole pour la transmettre. En fait, c'est aussi simple que ça. Toi, tu le fais par la radio, d'autres le font par l'écrit, la télé, mais en fait, le contrat, c'est juste ça. C'est compliqué parce qu'à l'époque, les services de com, etc., enfin, tout a été fait pour verrouiller une certaine parole. J'ai envie de dire que maintenant, moi, ces paroles-là, institutionnelles, etc., qu'elles soient verrouillées, je m'en fous, elles ne m'intéressent absolument pas. C'est-à-dire que je vais juste les prendre parce qu'il faut le contradictoire. Mais j'ai de dire qu'en réalité, la préfecture, tout ça, je m'en fous un peu. Par contre, ce qui est compliqué, c'est avec le panorama que je te dessine, il y a une telle défiance qu'aujourd'hui, tu peux même plus ou très difficilement aller recueillir les autres paroles. C'est-à-dire que si t'enlèves les paroles institutionnelles qui se sont elles-mêmes verrouillées par protection, eh ben, tu vas chercher d'autres paroles. Et moi, je pense notamment les Gilets jaunes avec tout ce qu'ils ont apporté. J'étais à Saint-Nazaire pour Mediapart et pendant 6 mois, j'ai été sur les ronds-points pour comprendre un peu ce qui se passait. Et pourtant, je suis journaliste depuis 20 ans, je suis localier, Mediapart, qui est pas considéré comme un CNews ou un BFM. La première fois que je suis rentré sur un rond-point, je me suis dit, ok, pourtant j'ai de la bouteille, je suis rentré chez moi, les mecs m'ont sorti, hein, vraiment. Et donc, j'ai même fait un truc, autre petite secret de boutique, je suis revenu avec ma fiche de paye, en disant, voilà, moi je suis journaliste pigiste, voilà ma fiche de paye. Les mecs ont dit, ah ouais, donc toi aussi t'es gilet jaune. J'ai dit, eh ouais, parce qu'en fait, je suis pas Jean-Michel Apathy, je suis pas Christophe Barbier, enfin, je gagne pas 25 000 balles par mois, quoi. Mais sauf que maintenant, cette parole, et c'est pour ça que c'est difficile, le lien de confiance est tellement rompu que d'habitude, tu faisais un rec play assez rapidement pour avoir la parole. Aujourd'hui, il faut un temps fou. Or, le fonctionnement médiatique fait que tu n'as pas, enfin, on veut pas que tu aies le temps. Donc, c'est ce que je trouve compliqué, moi.
Alors, t'as écrit un livre, en finir avec les idées fausses propagées par l'extrême droite, je vais y arriver, c'est publié en 2014, c'est ça, ouais, à peu près.
Exactement.
Hein. Ouais. Et c'est quand même complètement fou, c'est toujours d'actu, évidemment, c'est un truc de fou. Et tu m'as dit hier, je l'ai appris, que propager ces idées, ça a été un combat de longue haleine.
Ouais, c'est-à-dire que, alors déjà, tu es sorti en 2014, on est en 2021-22. En gros, j'ai perdu, hein, parce que ce bouquin, je l'ai écrit il y a 7-8 ans. Tu vois bien que ça a servi à rien. Oui, c'est... Enfin, je dis ça... Non, j'espère pas, mais... Ouais, en fait, ce bouquin, déjà, c'est une veine d'éducation populaire, parce que j'avais pas envie de faire un bouquin sur l'extrême droite, comme il y en a eu plein intéressants, mais qui concernent pas ceux que j'avais envie qui soient concernés. Donc, éducation populaire. Je l'ai sorti parce que je pressentais que la bataille culturelle et idéologique était en train de tourner, et c'est exactement ce qui se passe. Et si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il faut revenir à mai 68, quand il y a cette révolution des mœurs libérales, etc. Et dans la nuit du 4 au 5 mai 68, il y a des mecs qui se réunissent, qui créent le GRES, le Groupement de Recherche et d'Études sur la Civilisation Européenne, Alain de Benoît, Jean-Yves Le Gallou, etc. Et ces mecs disent, ok, on a perdu, là, en mai 68, idéologiquement et culturellement. Par contre, dans 50 ans, on va gagner. C'est-à-dire qu'on va renverser le récit et on va faire que ce combat progressiste, et encore je mets des guillemets, parce que 68, ça a été progressiste, mais on voit ce que ça a amené aussi, on va le renverser. Et donc, ces mecs-là, avec patience, ils ont drainé dans les écoles, dans les facs, dans les médias, chez les politiques, dans les institutions, et petit à petit ils ont infusé leur idée. Ils ont fait simplement ce que le théoricien marxiste italien Antonio Gramsci avait dit, c'est-à-dire que pour gouverner, il faut gagner la bataille culturelle et idéologique. Et donc Un métier de reporter, c'est d'entendre, de sentir des choses. Et moi, je suis beaucoup dans les chambres d'hôtel, dans les aéroports, etc. Et donc, ce bouquin, il naît de ça. C'est-à-dire que j'entends beaucoup de choses. J'entends les mêmes choses dans plusieurs catégories de la population. Et je me dis, tiens, c'est pas un hasard si le cadre dit ça, si le patron dit ça, si l'ouvrier dit ça, si le prof dit ça, si le syndicaliste dit ça. Il y a une infusion extraordinaire. Et ce bouquin, il naît de l'envie de dire, écoutons ces idées que j'estime fausses, moi, et combattons-les de manière idéologique et culturelle.
Quel est, selon toi, alors est-ce que la question, je pense qu'on pourrait y passer des heures aussi, mais bon, le plus gros mensonge de l'extrême droite?
Ah, punaise.
Je savais en posant la question que...
Il n'y a pas un joker dans la matinale de Barthes.
Si tu veux. Alors d'accord, est-ce que extrême gauche et extrême droite, c'est le même délire, c'est la même chose?
Non, pas du tout. Alors évidemment, on nous fait le machin. Après, tu mets une Le Pen ou un Mélenchon et tu dis, voilà, ils disent la même chose, souverainisme, machin sur l'échiquier. Évidemment que non. C'est-à-dire que l'extrême droite, notamment la plus grosse imposture, tiens, je vais répondre quand même à ta question, c'est que l'extrême droite, c'est le libéralisme à tout craint. C'est-à-dire que l'extrême droite, en réalité, c'est système libéral, ce sont les riches. Et pour que tout ça fonctionne, il faut un bouc émissaire, il faut que les pauvres se tapent dessus. Évidemment que l'extrême gauche, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'extrême gauche part des combats sociaux. L'extrême gauche, c'est se battre pas pour soi, mais se battre collectivement pour amener des nouveaux droits. Alors que l'extrême droite, c'est le moi contre les autres. L'extrême gauche, c'est le nous contre les attaques, tu vois. Enfin, pour moi, c'est ça la vraie différence.
Alors, on le fait un peu là, mais pourquoi, on parlait un peu tout à l'heure après l'édito, mais à ton avis, pourquoi les médias parlent autant de politique et des politiques en général, alors que finalement, on l'a vu au régional, il y a une abstention qui frôle les 70%, ce qui prouve quelque part qu'en fait, les Français s'en foutent.
Ouais, et puis parce qu'on est dans un feuilleton, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans les chaînes d'info continue, hein, et que c'est du H24, et que quand même, il faut nourrir la chaîne, et qu'en fait, nourrir la chaîne, ça veut dire quoi? C'est aussi nourrir le temps de cerveau disponible. C'est-à-dire que si tu regardes aujourd'hui BFM TV, je suis toujours surpris que entre l'édito, écho, la chronique culturelle, en fait la pub arrive comme si c'était la prochaine chronique, c'est-à-dire qu'elle a son générique, elle a son jingle, etc. Et donc effectivement que ça sert à ça. Et après le politique, parce que c'est le feuilleton, parce que ces personnes-là, elles jouent un rôle, tout ça est une grande scène de théâtre. Et puis les Français sont fatigués en fait de ce théâtre-là, parce que ce théâtre-là, c'est pas juste un grand guignol qui nous fait marrer. Ce théâtre-là, il nous concerne tous les jours dans notre quotidien, dans notre vie. Parles-en aux gens, et comme moi d'ailleurs, j'ai fait à peu près 1000 bornes pour venir ici. Je vais mettre 2 fois 85 € dans ma bagnole, parce que oui, malheureusement, quand tu viens dans des régions magnifiques comme celle-là, pour bouger aussi avec les jeunes en résidence, il faut venir en caisse. Et donc ce théâtre-là est complètement déconnecté du quotidien des Français, qui au début, poliment, parce que le Français, il est pas que râleur, il joue le jeu. Et il a dit, bon, bah, il faut que je mette le bulletin là, il faut que je vote utile ici. Et maintenant, il a dit, en fait, allez vous faire voir.
Ouais, c'est clair. Bon, c'est bien dommage, mais bon.
Ouais, c'est bien dommage, ouais. Mais ça, ouais, enfin, bon, oui.
Ouais, perso, je parle très peu d'extrême droite sur cette entête. Je ne cite jamais de nom. Est-ce que j'ai tort ou raison?
C'est toujours le grand jeu. Est-ce que les nommer, c'est les combattre, ou est-ce que les nommer, c'est leur donner de la lumière? Encore un petit secret de fabrication, mais ton beau-père est chez toi, il est belge. Et je vais parler de la Belgique, parce que très longtemps, la Belgique a utilisé la stratégie du cordon sanitaire, c'est-à-dire extrême droite, jamais, nulle part. On ne les invite pas. On en parle très peu, parce que l'extrême droite, elle existe, mais c'est pas elle qui doit gouverner. Et puis, tu vois bien que le cordon sanitaire belge, il a sauté, parce que si c'est pas parce que tu les nommes pas que eux dans l'ombre, etc., ou à côté, ils ne font pas leur taf. Et donc, ben, j'ai pas de réponse, parce que les nommer, c'est les combattre, les nommer, c'est les faire briller, hein.
Et en tout cas, on salue Jean-François, évidemment. En ce moment, c'est un peu la galère, la présidentielle arrive, ouais. Ça va encore faire mal.
Je sais pas. Enfin, oui, ça. Évidemment que ça va faire mal. Alors, je suis pas Christophe Barbier qui a un avis sur tout. Donc, en fait, je sais pas, mais en tout cas, ouais, ça va faire mal, parce que je pense que beaucoup de gens vont dire on ne joue plus. Je pense que celui ou celle qui sera élu le sera sur un tel quorum minimum, enfin indécent pour un système démocratique, que de toute façon, celui ou celle qui va repartir en mai 2022. il repartira sans aucun assentiment. C'est-à-dire que il va repartir, personne n'aura voté pour lui, parce que t'auras voté pour lui ou elle en barrage, peut-être certains par intérêt, mais je pense que ça va être très compliqué, et en même temps, j'ai envie de dire, il ou elle, on s'en fout, parce que ça va être très compliqué pour nous.
À part Mermet, qui sont tes mentors en journalisme? Ou en tout cas des gens, ouais, des gens que t'apprécies.
Mais en fait, j'en ai pas. C'est-à-dire que Daniel, c'est pas un mentor. Enfin, j'ai bossé c'est avec lui, hein, tu vois, mais c'est pas un mentor. Non, en fait, enfin, moi, mes mentors, c'est les gens que je rencontre. C'est-à-dire que le journalisme, j'ai pas de figure parce que, déjà, moi, ni Dieu ni maître, hein, je suis pas trop un mec qui aime avoir des figures. et non, je fais ce métier pour les gens. Avec les gens. Donc, si j'ai envie de te dire quels sont mes mentors, c'est les gens que je rencontre depuis 20 ans, quoi.
Et ce serait quoi, toi, pour toi, le média parfait? Et est-ce qu'il existe?
Non, je crois pas qu'il existe. Le média parfait, c'est celui où on se prend la tête, enfin, on se prend le chou entre collègues pour aller le. Enfin, non, je sais pas si la perfection existe, mais en tous les cas, aller au mieux. Non, je sais pas, je crois pas. Enfin, le média parfait, il peut pas être parfait, puisque les médias, par essence, sont créés par des humains et qu'on est tous sauf parfaits, donc.
Est-ce que t'es prêt pour l'interview de détente?
Ah oui, ça va faire du bien.
Allez, on y va, Jingle.
On y va.
C'est l'heure de l'interview de détente.
Bah ouais, parce que j'ai pas le droit de dire feel good.
Non, je ne peux pas dire feel good. Je dois parler français sur cette antenne. En fait, je disais toujours, on fait l'interview feel good, et tout le monde me dit, mais arrête de parler anglais. Parle français, c'est si joli. Un livre que tu conseillerais?
Ah, ça, c'est la grande question que tu m'as posée. En fait, c'est plutôt un BD reportage. C'est comment ils ont inventé le chômage, par l'ami Benoît Colomba, journaliste d'investigation à Radio France. Et c'est une BD extraordinaire parce qu'aujourd'hui, on ne parle que chômage, le fléau du chômage. Le chômage, aujourd'hui, c'est un peu comme l'Europe. Il est responsable de tout, coupable de tout. Et cette BD d'enquête est formidable parce que ça montre évidemment que le chômage aussi, c'est quelque chose... Alors, qui a été inventé, ça c'est la thèse du bouquin, en tous les cas, c'est quelque chose qui est alimenté, qui est instrumentalisé, pour qu'à un moment, les classes populaires ne se battent pas intellectuellement sur les vrais combats, mais se battent pour trouver un taf. Et ça c'est extraordinaire, parce que quand tu fais en sorte qu'une majorité de personnes passent leur quotidien à envoyer des CV, à essayer de trouver 3 francs 6 sous d'allocation, bah ils font pas le reste. Et moi, cette BD, elle m'a passionné pour ça.
Et il a la bonne idée de s'appeler Benoît.
Et il a boyiné de s'appeler, n'est-ce pas, Benjamin?
C'est ce qui s'appelle Tendre la perche. Un film que tu conseillerais?
Alors, ça s'appelle Wild Men. C'est un film danois qui est extraordinaire parce qu'il interroge la folie de la société de consommation et au milieu de ça, la difficulté d'être un mâle blanc. Et moi, ça m'intéresse parce que je suis un mâle blanc et surtout, ça m'intéresse parce que le petit monsieur Z, une de ses grandes théories, c'est de dire... Il n'y a pas que notre civilisation qui est malade, le mâle blanc n'a plus sa place. Ah. Ça me fait marrer. Et donc Wild Men, comme les Danois, les Scandinaves savent si bien le faire, c'est une satire qui mêle combat contre la société de consommation avec ce mâle blanc qui est complètement perdu. Et c'est noir, c'est drôle, ça me fait penser un peu aux frères Cohen, un peu Fargo, tu vois, cet univers.
Je vois tout à fait. Et pour finir, un artiste, hein, ou une artiste d'ailleurs.
Bah, on en parlait hier soir. Je l'aime beaucoup. Il s'appelle Delgrès. Enfin, le groupe s'appelle Delgrès. Le leader s'appelle Pascal Danaé. C'est Delgrès. Ça vient de Louis Delgrès. C'est une figure antillaise, anticolonialiste. C'est la créolisation. C'est le combat par les arts. C'est tout ce que déteste le petit monsieur Z. Alors moi, je conseille Delgrès.
Auditeur, auditrice, on l'avait eu sur cette antenne en juillet 2019.
Le 15 juillet 2019,
rendez-vous compte. Et c'est vrai qu'il était absolument génial. Et on se quittera tout à l'heure, on finira la matinale sur du Delgrès. Merci beaucoup, Pierre-Yves.
Ben, merci à toi, Ben.
Le journaliste qui a encadré nos jeunes pendant 2 jours. Et on y retourne d'ailleurs encore.
Ouais.
Toi, tu restes encore une petite matinée avec nous. Et nous, on finira ce stage. Ça suit d'ailleurs, auditeurs, auditrices, parce que vous aurez sans doute samedi matin les reportages et les interviews de nos jeunes. Merci beaucoup, Pierre-Yves.
Merci
et bon
à
retour
toi, Ben.
Chez toi.
Merci beaucoup,
plaisir.
Au revoir.
Allez, dans un instant, on retrouve l'interview de Marc à l'occasion des 20 ans de la fête de la soupe. On écoute d'abord Boris Vian et c'est lui qui dit le titre.
La complainte du progrès. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux. Et nous serons heureux, autrefois s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère, on dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire-godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à l'éventre tomate, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
Boris Vian, la complainte du progrès. Marc est parti à la rencontre de Monique, qui est directrice de l'office de tourisme à Florac, et elle nous parle justement des 20 ans de la soupe, l'origine, tout ça, voilà, on écoute tout ça.
Je suis Monique Rocher, je suis la directrice de l'office de tourisme Gorge du Drame, Cosséenne.
Est-ce que tu peux nous parler de l'origine de la soupe? Comment est née la soupe ou l'idée du festival de la soupe?
Alors l'idée du festival de la soupe est née du cerveau de deux ou trois personnes au départ, puis ça s'est diffusé petit à petit, je dirais. Alors je sais qu'il y avait Brigitte Chapelle dans l'histoire, et il y avait donc Madame Chaptal, et deux ou trois dont j'ai oublié peut-être, puisque ça commence à faire un petit moment que ce festival a été lancé. Donc Brigitte Chapelle à l'époque faisait partie de l'office de tourisme. Je ne sais plus ce qu'elle était, trésorière, enfin membre éminent du bureau de l'office de tourisme. Et elle a lancé cette idée-là. Il y avait aussi Spinas qui avait lancé une idée de festival de la soupe. Enfin, ils avaient discuté entre eux. Et comme nous, à l'office de tourisme aussi, on se posait la question de comment animer cette période de Toussaint, qui à l'époque était assez mortifère, alors que le temps commençait à être sympa en automne, la vacance de Toussaint, en fait, c'était la période où tout le monde venait fermer sa maison et boucler ses résidences secondaires pour l'hiver. Il y avait quand même du monde, mais il n'y avait rien au niveau de l'animation. Donc on s'est dit, pourquoi pas développer une idée d'animation qui développerait cette fréquentation à Toussaint. Bon, c'est vrai que l'Office de tourisme est quand même, au départ, une association qui a pour le but de dynamiser la fréquentation, qui a un objectif économique sous-jacent à certains, et aussi un objectif de rayonnement de la notoriété des Cévennes. Donc ça faisait deux pierres à un coup.
Et est-ce que tu te souviens comment justement a émergé l'idée d'un festival de la soupe plutôt qu'un festival de musique je sais pas, un événement sportif
Alors ben c'est le... Je pense que la soupe c'était le côté rigolo et fédérateur qui plaisait. et qui plaît encore, je pense, aujourd'hui aussi. Le côté aussi atypique pour la région, parce qu'on s'était même pas posé, on n'avait pas fait de benchmark à l'époque, hein, pour savoir s'il existait un festival de la soupe. Il se trouvait qu'il y en avait, mais que pas ici, pas localement. Donc il y avait ce côté original. Et bon, naturellement, en Cévennes, on a beaucoup d'idées, ça fuse de partout, et c'est devenu un festival qui reste atypique, je trouve. Qui d'ailleurs, on a du mal à, quand on a des journalistes, à faire comprendre que c'est pas que gastronomie. Ouais. Mais ça fait appel à la gastronomie aussi. Donc ça a le côté fédérateur, qui peut plaire aux gens ici comme à des touristes, bien qu'après ça évolue aussi vers un festival culturel avec des rencontres, ce côté rencontre, ce côté musique. C'est ça, je pense, pourquoi un festival à soupe. C'est le terme soupe et festival, qui les deux mélangés étaient assez explosifs.
Tu te souviens de la première édition ?
Alors la première, oui, je m'en souviens, il faisait très chaud les premières éditions, donc ça a permis aussi au festival de se développer. Est-ce qu'on me rappelle d'une soupe sur l'esplanade où il faisait très chaud même le soir, on n'avait pas encore changé l'heure. Donc c'était très sympa, c'était très local évidemment, puisque ce festival ne rayonnait pas encore. Ça avait suscité la curiosité des locaux. Et c'était le côté hyper sympa qui a vraiment plu d'abord. Je me rappelle des premières affiches, puisque bon, j'avais participé à la com de ce festival, parce qu'au départ, ce festival était géré par l'office, il n'y avait pas d'association. L'association est venue après, puisque c'est approprié, ce qui est très bien, hein, qu'une association s'approprie ce festival.
C'est-à-dire qu'à l'époque, toi, tu avais dans tes missions de travailler pour le festival de la soupe.
Ah oui, moi j'aime beaucoup pour les premiers festivals, mais t'étais vraiment à fond là-dessus. Oui, et travailler. Enfin, moi, je comptais vraiment le travail avec Brigitte, qui était aux commandes, m'occuper de ça. Ouais. On s'occupait même un peu d'organisation aussi, hein, puisque c'était quand même beaucoup les bénévoles. Mais bon, la limite entre le bénévolat et le travail salarié était des fois floue.
Il y a eu tout de suite une forte équipe de bénévoles ?
Assez vite, ouais. Assez vite, je me rappelle qu'on avait réussi à associer des clubs aussi divers et variés que le club de foot. Je me souviens d'une soupe du club de foot. Ça veut dire que ça a bien pris quand même, hein, quand même des clubs comme le foot, qui a priori n'est pas... C'était pas touristique, en fait, uniquement, même si nous, on avait un objectif touristique. Et c'est ça, d'ailleurs, qu'on aimerait reproduire sur d'autres endroits et d'autres lieux. C'est-à-dire que ce soit quelque chose qui vienne des gens d'ici, qui n'est pas pondu d'en haut, et que ça prenne petit à petit. C'est finalement le plus sûr moyen que les choses fonctionnent.
Et du coup, avec le recul, selon toi, c'est un bon calcul ? Ça a été un bon calcul de lancer ce festival d'un point de vue touristique ?
Oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde le connaît. Il y en a qui l'aiment pas, il y en a qui l'aiment, mais c'est normal. Ça fait partie de la vie d'un événement. Franchement, moi, je le cite même comme un exemple de quelque chose qui est parti de. Qui est parti quelque chose de beau sentiment, même s'il y a eu des aléas, évidemment. Je pense qu'on a eu mille fois raison de le lancer.
Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui n'auraient pas connu Florac sans le Festival de la Soupe ?
Oui, je pense, ouais. Il y a des gens qui sont venus exprès. Ouais. Oui, bien sûr, clairement. Enfin, moi, pour avoir été à l'accueil de l'Office de Tourisme, il y a des gens qui sont venus pour ça.
Peut-être pour terminer, j'aimerais bien que... Alors là, une question très personnelle. Est-ce que tu peux nous évoquer ton meilleur souvenir du Festival de la Soupe ?
Oui, alors c'est tout bête. C'était une balade dans les jardins. Je me souviens avec... sur le bord du Tarn, là, au pont. Au pont à l'entrée, où il y avait une grande tente berbère. Il y avait une soupe aussi. Il y avait des lampions. Et ce qui m'a fait rire, c'était que c'était un copain de la municipalité qui habitait à côté, qui était là et qui venait. C'est mon meilleur souvenir à moi, personnellement. J'ai trouvé c'était vraiment hors cadre, inhabituel. Et là, pour le coup, on était vraiment dans l'échange, puisqu'une tente berbère, c'est pas courant au bord du Tarn. Il y a ce côté lumière, côté soft. Il y avait de la musique, je me souviens de ça. Côté, c'est mon meilleur souvenir du festival, outre aussi des concerts, parce que moi j'aime beaucoup les concerts aussi, et la salle des fêtes pleine à ras-bord, bon, ça plaît pas à tout le monde, avait beaucoup de monde. Moi ça, j'adore.
Ah là, Hugo Frey, la soupe à ma grand-mère. Merci beaucoup à Marc, merci beaucoup à Monique. Marc qui continue ses pérégrinations et ses interviews à l'occasion des 20 ans de la soupe. Quant à nous, on se retrouve ce samedi à 16h sur l'Esplanade pour un plateau, justement lors de cette fête. C'est la fin de cette matinale. Brest, à vous souhaiter une excellente journée. Merci à toutes et tous de nous suivre. Profitez-en bien. À samedi sur l'Esplanade, si le cœur vous en dit. Ouais, il va pleuvoir, mais on va faire la fête et on va boire ma soupe. C'est trop cool. On se quitte avec le choix musical de Pierre-Yves, c'est Delgrès, et le morceau, c'est, que je ne dise pas de bêtises, Headman. À samedi, ciao. Bye.